Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour spécial à Marc et à Christine qui nous visitent ce matin. Ça nous fait plaisir que vous soyez là parmi nous. Effectivement, comme l'a dit Christian, on a vécu une semaine de haut et de bas, hein, avec des baptêmes qui étaient un très grand moment de réjouissance. Et puis lundi matin, cette nouvelle qui affectait beaucoup d'entre nous, au sein de la communauté, qui nous laisse aussi avec pas mal de questions, qui nous a pris aussi beaucoup d'énergie toute cette semaine. Et puis, pour moi, il était important ce matin de changer mon programme un peu, parce que j'avais prévu de continuer ce cycle de prédication sur le royaume, de donner une conclusion, parce qu'on arrivait au seuil des vacances, et puis de se dire, ben voilà, c'était l'occasion de boucler la boucle. Mais je crois plutôt que j'étais inspiré de continuer, puis d'aller sur la suite de ce qu'on a vécu lors de la cérémonie d'adieu à Cyril, vendredi passé, et puis qu'on puisse reméditer ce texte que j'ai pu lire durant cette cérémonie, mais que j'ai peu approfondi. Et puis ce matin, je vous invite qu'on ait un peu plus d'espace, en toute simplicité, je vais essayer de laisser parler mon cœur, de se dire, mais qu'est-ce que ce texte peut nous dire dans cette situation, ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Alors je vais vous le lire, vous pouvez simplement l'écouter ou le suivre dans vos Bibles. Je vais lire Jean 14, et puis tu verras, Jean-Christophe, tu vas te reconnaître dans ce texte, puisque tu y as fait allusion dans ta prière. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi, votre confiance en Dieu. Mettez votre foi, votre confiance en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui répond, cette phrase célèbre, c'est moi et moi seul qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Ce texte commence par deux impératifs, puis c'est ces deux impératifs que je vais un peu discuter avec vous ce matin. Deux impératifs, le premier c'est un, que votre cœur ne se trouble pas, c'est deux ordres de Jésus, et mettez votre foi, votre confiance en moi, comme vous la mettez en Dieu. Deux impératifs qui commencent ce texte où Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, Jésus vient de leur annoncer qu'il va bientôt partir, que votre cœur ne se trouble pas est vraiment placé face à la mort qui attend Jésus. On est vraiment dans cette situation. Et puis j'ai intitulé ce partage ce matin, lorsque la foi est mise à l'épreuve. Puis c'est effectivement ça, il y a deux choses dans le Nouveau Testament qui mettent la foi à l'épreuve. La première, c'est la mort, et notamment la mort de Jésus. Et la deuxième, c'est les persécutions. Et chaque fois, dans le Nouveau Testament, il y a cette parole de Jésus qui dit « Que votre cœur ne se trouble pas. » Chaque fois que cette phrase est prononcée, ou souvent en tout cas, je n'ai pas fait le compte exact, il y a cette réalité que face à la mort, face à la persécution, que votre cœur ne se trouble pas. Et ce n'est pas en premier lieu, je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas en premier lieu une phrase de consolation. En premier lieu, cette phrase signifie que oui, on peut passer par la case peur, on peut passer par la case désarroi, on peut passer par la case doute lors de notre parcours sur Terre. Il est nécessaire d'admettre ces réalités-là. On n'est pas dans une espèce de fuite en avant parce qu'on croit en Dieu, mais on passe par ces moments-là. Ils ne sont pas évités. Si on va tout de suite sur la case consolation, pour moi on est dans de la consolation à bon marché, ou dans le déni, ou dans la fuite. Et ce qui me permet de dire ça, c'est trois autres versets, trois autres moments dans l'évangile de Jean, où Jésus lui-même, notre Sauveur, ce chemin, cette vérité, cette vie, c'est Jésus lui-même, en voyant sa mort venir ou en voyant la mort de son ami Lazare, qui lui fait passer à la sienne, il est lui-même troublé. On trouve ça dans Jean 11, 32, 33. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, c'est lors de l'épisode de la mort de Lazare, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi tous ceux qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Quand il annonce sa prochaine mort à ses disciples, il parle aussi en jeu et dit « Maintenant je suis troublé. Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure ?» Mais c'est pour cela précisément que je suis venu en cette heure. Jésus, en évoquant sa mort future, ses sentiments sont comme les nôtres. Il est troublé. Et finalement, après qu'il ait lavé les pieds à ses disciples, il évoque de nouveau ce qu'il attend dans quelques jours, dans quelques instants. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla. Il prononça ce témoignage, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » On est exactement au même niveau que Jésus. Ou bien Jésus plutôt se met au même niveau que nous. Jésus, ce n'est pas le super-héros qui défie tous les éléments. Jésus, on le voit même là dans ces trois textes, il revient à trois reprises à ses scandés dans l'évangile de Jean. Il est troublé. Et par ces paroles au début du chapitre qu'on vient de lire, quand il nous dit « Votre cœur ne se trouble pas », ce n'est pas des paroles en l'air du coup. C'est des paroles que lui-même a vécues, a incarnées. Et c'est lui-même qui nous les dit « Que votre cœur ne se trouble pas », comme il l'a dit à ses disciples. Ce trouble, il est à prendre en compte, mais ce trouble nous permet d'affronter le désarroi, le doute, en le regardant en face. J'irais même juste à dire que la foi permet de regarder la mort en face sans baisser le regard. Ce n'est pas un geste de défiance, mais c'est un geste de confiance en celui précisément qui a vaincu la mort. Et là, l'exemple de Cyril, de nouveau, nous permet de dire que ce n'est pas des paroles en l'air ou des concepts, mais que c'est une réalité incarnée. Puisque jusqu'au bout de son parcours sur cette terre, il a pu rester digne, il a pu rester debout, fidèle à sa ligne, de placer sa confiance en Dieu. Puis je crois qu'il a pu, grâce à sa foi, regarder ce qui lui est arrivé, des yeux dans les yeux. Il a pu regarder la mort en face. Ça nous défie ? Mais ce n'est pas parce que Cyril était plus fort que d'autres personnes, mais parce qu'il a décidé de placer sa foi en Dieu. Et la foi ici, quand il nous dit, Jésus, que votre cœur ne se trouble pas, mais mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi, ces deux impératifs, cette foi signifie essentiellement la confiance et la fidélité. Avant d'être un credo ou quelque chose que l'on peut réciter, concept de croyance dans laquelle on peut placer sa foi, c'est avant tout laisser aller entre les mains du Père, se dire on place totalement notre confiance qu'on a de plus fort en Dieu. D'ailleurs, ça va m'amener à reconsidérer peut-être ma manière d'aborder les cérémonies de baptême. On a pu réciter le credo, c'est pas faux évidemment, mais je crois que plus profondément, la foi, c'est vraiment se laisser aller entre les mains de Dieu. Puis je crois que c'est ce qui se passe aussi quand on se fait baptiser. On se laisse totalement aller entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui nous relève, qui nous ressort de l'eau. Et le centre de la foi, on le voit dans ces versets, c'est notre cœur. C'est vraiment ce qui vibre en nous. C'est notre être le plus profond. Puis il y a quelqu'un, durant cette semaine, qui nous a aussi envoyé un mail. Très intéressant parce qu'il a eu des problèmes au cœur. Et puis, Il a pu être soigné par rapport à cela. Il a pu aussi nous l'exprimer. Et puis, il a mis cette phrase dans le mail que j'ai trouvé belle. « J'ai aussi appris que quand on prend trop à cœur une cause, etc., on en prend aussi plein le cœur. » C'est aussi la raison pour baisser un peu le régime de mes engagements. C'est ça, sa conclusion. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est « J'ai aussi appris que quand on prend trop à cœur une cause, etc., on en prend aussi plein le cœur. » Il y a le premier degré Voilà qui est là, notre cœur qui bat. Si on est vraiment troublé là, je crois que Dieu, dans sa consolation, peut aussi venir nous consoler là même au premier degré. Ici, le croire quand Jésus donne cet impératif aux disciples, ça ne peut pas être le premier pas de la foi. Parce que sinon, ce ne serait plus l'image qu'on a de Dieu qui nous laisse le libre choix devant lui, de savoir si on le suit ou pas. Ça ne peut pas être le premier pas de la foi qui nous donne cette indication-là par un impératif. Par contre, ce que signifie cet impératif, c'est une fois qu'on a entamé ce chemin de foi, on a besoin d'impératifs pour continuer d'y croire. Et c'est différent. Lorsqu'on en est engagé et qu'on traverse des épreuves, que l'on doit affronter des épreuves qu'on n'a évidemment pas choisies, Jésus emploie l'impératif pour nous dire « Continuez de mettre votre foi en moi ». Je sais que ce n'est pas évident, mais moi ce que j'ai à vous dire, c'est « Continuez de mettre votre foi en moi ». C'est un impératif dont on a besoin. L'impératif du croire fait partie intégrante de la vie de disciple, car nous sommes lents à croire, lents à percevoir qui est vraiment Dieu, et lents à saisir ce que Jésus nous dit, et notamment face à la mort. Et puis si on prend la réponse de Jésus, on peut comprendre légitimement, si on pense rationnellement, qu'on peut être lent à croire avec toutes les bonnes excuses que l'on peut avoir. Puisque nous dire qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, c'est pas évident à saisir de prime abord. Se dire que la mort n'a pas la victoire finale, mais qu'il y a une espérance qu'on ne voit pas, c'est pas hyper facile à saisir. Si on pense que au ras des pâquerettes ou bien de manière très rationnelle, il y a quelque chose qui nous échappe. Comment ça va se passer? Quelle forme auront ces maisons? Qui est-ce qu'on va retrouver? Dans quel état on sera? On se pose toutes ces questions parce qu'on est encore des êtres assez rationnels. Par contre, on a besoin de cet impératif pour se dire, oui, il y a une possibilité qu'effectivement, quelque chose de plus soit là. Quelque chose qui dépasse notre vie sur Terre, existe vraiment, et que l'on puisse mettre notre confiance dans cette demeure qui nous attend toutes et tous auprès du Père. C'est un des éléments de la foi des premiers disciples et c'est un élément de la foi que Jésus aussi transmet dans l'évangile de Jean. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même évangile, il est question, au tout début de cet évangile, dans la présentation que Jésus fait de son ministère qu'ils ne connaissent pas encore à ses disciples, il leur dit toujours deux mots. Venez et voyez. Il leur dit, venez, verset 39, venez et vous verrez. Ils vinrent et virent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la dixième heure. Le même verbe demeurer auprès de lui sur cette terre et demeurer là-haut dans le ciel. Nathanaël lui dit aussi encore, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et si Philippe lui dit, viens et vois. Et ce qui suit ces engagements de Jésus, ces invitations de Jésus à venir et à voir, c'est le premier miracle à Cana, le premier signe de sa puissance. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ce matin? J'aborde cet aspect-là de l'évangile de Jean ou je ne l'aborde pas? Je passe dessus en disant, bon, on en parlera peut-être une autre fois, ou bien je m'y lance et puis j'essaye de l'aborder pour essayer de conserver l'évangile dans sa globalité telle qu'il nous est vraiment transmis. Ce signe pour nous, avec Cyril, de guérison, on ne l'a pas vu. Il faut le reconnaître. On n'a pas vu le signe qu'on aurait voulu voir. Et d'après moi, c'est précisément dans ces contextes-là que peuvent résonner ces mots de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce qu'il ne nous parle jamais faussement en nous disant que la mort ne serait plus de notre réalité terrestre. Jamais il nous a demandé de croire cela. Continuer de croire et de faire confiance à Dieu, c'est croire qu'il nous prépare une place et que nous pourrons demeurer éternellement à ses côtés. Et pour nous, terniens, c'est nettement moins palpable. On préfère les signes beaucoup plus clairs. Cela étant, est-ce qu'on a fait faux en demandant des signes de guérison pour Cyril? Absolument pas. Cette fois, ça ne nous a pas été donné, mais on peut toujours et on doit encore et toujours placer notre foi dans cet évangile qui nous dit « Viens et vois ces signes. » Viens et vois ces signes car ils font aussi partie intégrante de notre vie de disciple, dans la foi et dans la mesure de ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas à nous de lui imposer quoi que ce soit, mais c'est à nous de continuer à placer cette même foi qui nous fait croire qu'il y a une vie après la mort. Cette même foi, elle s'exprime aussi dans notre attente de venir et de voir les signes qui peut-être nous seront offerts. Les signes font aussi et toujours, et pour la suite aussi de notre communauté, de notre Église, ils font toujours partie de notre vie de croyants et de disciples, même si ça paraît difficile à entendre ce matin. Et si on regarde bien dans la situation qu'on a vécue avec Cyril, même si l'issue ne nous plaît pas et nous fait souffrir, il est toujours possible et beau, d'après moi, de voir certains signes de la grâce de Dieu dans ce parcours. Le soutien, la paix, l'unité, la ferveur, l'empathie que l'on a pu vivre tous ensemble pour accompagner et continuer d'accompagner cette famille Gallet, pour moi, c'est aussi des signes que nous sommes appelés, nous, en tant que disciples, à nous déplacer, à venir et pouvoir les voir. On a fait ce qu'on a pu et on a fait ce qu'on a pu avec foi. Et je me permets quand même de partager ces signes-là de soutien, de paix, d'unité, de ferveur, d'empathie que nous avons pu vivre tous ensemble. Pour moi, j'ose le dire, ils sont quand même autant de signes visibles d'une foi vivante et d'une foi qui ne s'endort pas, d'une foi qui est en action et qui s'attend à l'action du Père. Connaître le Père et le Fils en même temps, c'était le challenge des disciples. Ils ne savaient pas exactement comment comprendre que ce Dieu créateur, il s'était donné sous la forme d'un être humain qui pleurait et qui était troublé avec eux, qui leur lavait les pieds, qui leur parlait comme je vous parle maintenant. Et là, on a le centre de notre foi. Pour nous, peut-être qu'on le connaît depuis trop longtemps, parce qu'on se dit, c'est évident, Jésus, Dieu, le Père, enfin, un peu tout ça ensemble, c'est évident. Mais si on approfondit un peu, puis l'évangile de Jean insiste énormément sur cette dimension, si on approfondit un peu, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça de se dire que le Dieu créateur est vraiment venu prendre les traits humains, comme vous et moi, de son Fils qui est venu sur cette terre, nous offrir la vie et la vie éternelle. Et c'est pour ça, et précisément et uniquement pour ça, que Jésus est le centre de notre foi. Et c'est pour ça qu'on a un attachement particulier à lui, parce qu'il a partagé nos sentiments, il a partagé nos temps de trouble, et il ne s'arrête pas là. Il nous offre plus, il nous offre sa vie en abondance. Ça a deux conséquences majeures. Une positive, c'est que, en plaçant notre foi en Jésus, qui est ce chemin, la vérité et la vie, c'est que nous pouvons bénéficier de sa présence continuelle, indépendamment des circonstances de notre vie. Présence continuelle de Jésus auprès de celles et ceux qui croient en lui. Seule la forme de sa présence peut changer. Là, nous sommes dans le moment de sa présence où il nous envoie, c'est la suite du chapitre 14, son esprit de consolation, qu'on appelle le paraclet, un nom qu'on utilise toujours. Cet esprit de consolation qui vient venir nous habiter, qui vient nous habiter et qui nous parle de Jésus, même s'il est physiquement absent. Ce sera quand nous quitterons cette terre, sa présence éternelle auprès de lui, auprès du Père, là où il va nous préparer une demeure. Pour nous, croyants, c'est une présence continuelle et éternelle. C'est ce qu'on a pu chanter ce matin. Et elle est possible parce que Jésus est venu sur terre nous annoncer ce message unique. Et c'est pour ça que notre attachement au Christ, notre attachement à Jésus, il est vraiment au centre de notre foi. Ce n'est pas parce qu'on l'a appris, c'est parce qu'on a cette relation qui, envers et contre tout, va durer, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et puis là, je me permets de reprendre cette phrase d'Ilona, de se dire, on croit que Ilona Gallet, la fille de Cyril, qui a pu partager en disant, on croit que tout ce qui est troublé autour de nous va prendre le dessus, Mais non, personne ne pourra nous enlever cette relation que l'on a avec Dieu. Rien ni personne. Et c'est ça quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, je vous prépare une demeure », ça dit avant tout cette présence continuelle auprès de Dieu, auprès de lui, qui ne s'arrête pas indépendamment des circonstances qui sont les nôtres. Du coup, ce que la foi n'est pas, c'est une espèce d'idée de Dieu, que Dieu se manifeste dans la nature, dans le soleil, dans je ne sais pas quoi. Je lisais encore un journal que je ne citerai pas, où il y a vraiment cette idée de la foi qui est un peu évasive comme ça, qui est un peu planante, de gauche et de droite, on ne sait pas exactement comment la sentir. Cette foi-là, ce n'est pas la foi chrétienne, parce qu'elle est détachée du Christ. Pour nous, la foi chrétienne, et en tant que chrétien, on tire notre nom même du Christ, c'est vraiment cette foi qui nous permet d'être en relation continuelle et en présence continuelle de Jésus. Alors oui, cette foi-là, elle est mise à l'épreuve aujourd'hui. Oui, elle peut être ballottée, mais que nous puissions vraiment faire nôtres ces paroles, et on puisse vraiment les faire nôtres aussi en prenant le repas que l'on va partager tous ensemble, cette communion avec Jésus, cette communion qui se vit de manière particulière avec la scène. Et vraiment ma prière pour nous, communauté, c'est qu'on puisse tous dire que notre cœur ne se trouble pas, mais qu'on puisse décider tout à nouveau de mettre notre foi en Dieu, qui va nous envoyer son esprit consolateur pour nous bénir, nous faire du bien, et surtout nous tenir debout. Amen.